On rembobine avec Joris sur RCN.
Et bonsoir à tous et bienvenue sur On rembobine, votre émission musicale du mercredi soir à 21h. Ce soir, on va s'intéresser non pas à un artiste mais plusieurs, et même je dirais à un projet précisément. On va s'intéresser à une comédie musicale, à un opéra rock. Mais je ne suis pas seul, car je suis avec Pablo, comme toujours. Est-ce que ça va, Pablo ?
Eh bien, ça va super bien. Et toi, Joris ?
Ouais, je suis très content, et notamment parce qu'en fait, on a un invité de marque. Nous sommes avec Bernard Jeannot. Bonjour.
Bonjour, Joris. Bonjour, Pablo.
Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Eh bien, je suis Bernard Jeannot Guérin. Je suis maître de conférences en littérature française et j'enseigne en études culturelles à l'Université de Lorraine. Et je suis spécialiste de la comédie musicale française.
Et voilà. Plus particulièrement d'une en particulier.
Et plus particulièrement de Starmania, puisque j'ai fait ma thèse sur cet opéra rock de 1978-79.
Et bah ça tombe bien, voilà. Puisqu'on va parler de Starmania justement.
Ça tombe bien.
Pour rappeler un peu ce que c'est Starmania, vous me dites si je me trompe parce que ouais. C'est vous le spécialiste. Donc c'est un opéra rock franco-québécois.
Exactement.
Créé par Michel Berger en tant que compositeur et Luc Plamondon pour tout ce qui est paroles et écriture de l'histoire.
Voilà, le livret, ouais, comme on dit. À l'opéra.
C'est le terme est important. Ouais. Donc en 78, puis parce que de base c'est un album.
C'est un album ouais, qui sort effectivement à la fin de 1978 ouais, et qui sera monté sur scène au Palais des Congrès de Paris en avril 79.
Et qui fera combien de représentations
Alors, on dit qu'il y a 33 représentations. D'accord. Et 25 jours de représentation, puisqu'on peut jouer en matinée aussi et en soirée. Donc c'est assez fulgurant hein, en fait. Hein.
Ouais, c'est pas tant que ça en fait.
C'est pas énorme parce que c'est une question de production tout simplement. Ouais. Parce que comme l'album ne fonctionnait pas au départ, et on pourra y revenir, le Palais des Congrès n'avait pas prévu une place en fait pour l'opéra rock. Et c'est le PDG de Warner en fait qui a fait des pieds et des mains un petit peu pour dire ben voilà, nous on a quand même quelque chose à montrer. Voilà, donc il reste un tout petit créneau, je crois que c'était après Serge Lama, il me semble, au Palais des Congrès. Et puis le Bolchoï arrivait aussi de Russie, donc il y avait des questions de visa après, donc ils n'ont pas pu jouer les prolongations. Donc ça a été vraiment très fulgurant en avril 79.
Mais du coup, par la suite, il y a eu bien sûr plein d'autres versions. Il y en a eu jusqu'à maintenant.
Ouais. Jusqu'à maintenant.
Donc il y en a eu combien environ?
Alors, deux versions québécoises en 80 et 86. Mm-hmm. Le spectacle revient en 1988 et dure jusqu'en 90 au Théâtre Marigny de Paris et Théâtre de Paris également. Une version anglaise qui s'appelle Tycoon, voilà, qui s'est jouée juste après la mort de Michel Berger. Mm-hmm. Et entre 1993 et 2001, la version qu'on appelle Mogador 94, qui est signée Lewis Furet, qui se base sur tous les arrangements de Tycoon, justement. Et la dernière version, celle de Thomas Joly, qui a vu le jour en 2022 à la scène musicale de Boulogne, et qui est encore en tournée.
Et dont vous avez participé. Enfin, qu'est-ce que vous avez apporté justement du coup à Monsieur Joly pour faire cette...
À Monsieur Joly, alors.
Oui, pardon.
j'ai d'abord, quand Thomas a été sélectionné en tant que metteur en scène par Raphaël Amburger, qui est le fils de Michel Berger, France Gall et Luc Plamondon, au départ, il s'est rapproché de moi parce qu'on se connaît depuis très très longtemps.
D'accord.
Et puis, il m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu me briefes un petit peu sur les inspirations, sur les personnages, sur la dramaturgie. Donc on a commencé à avoir des séances un petit peu de travail assez informelles, en visio à l'époque où on ne pouvait pas se voir, et puis après en réel ou au téléphone. Je lui ai envoyé des morceaux de ma thèse. À partir de là, en fait, il a retraité, lui, toute la dramaturgie, il a eu ses idées, il a compris comment fonctionnaient un petit peu les personnages, quelles étaient les zones d'inspiration, à la fois littéraire et puis historique. Et puis, donc voilà, il a fait un petit peu sa cuisine. Il y a eu le Covid là-dessus, qui s'est...
Ah oui.
Parce qu'en fait, il a été sélectionné comme metteur en scène en 2019.
D'accord.
Voilà. Donc le Covid est passé là-dessus, donc le spectacle a été retardé. Oui. Et quand les répétitions ont commencé à la scène musicale avec l'ambition de sortir le spectacle en novembre 2022, eh bien là, c'est carrément la société Fimalac Productions et Thierry Suc, le producteur, qui m'ont appelé en disant bah, on va un peu officialiser aussi votre travail auprès de Thomas et on va vous demander d'écrire une série de textes synthétiques qui parlent de Starmania, les grands thèmes, donc l'écologie, l'histoire, la politique, la question du genre, les inspirations, etc. Et ces textes-là ont servi pour le dossier de presse, ont servi pour les comédiens en répétition. Ils ont travaillé sur ces thématiques-là pour mieux comprendre un petit peu leur personnage. Thomas s'en est servi également et ça a servi pour le programme officiel du spectacle. Enfin voilà, donc il y a eu un travail d'écriture de ma part. C'est un travail de dramaturge, en fait, on dit, c'est-à-dire de spécialiste scientifique autour du projet. Voilà.
Incroyable.
Ouais, vraiment.
C'est vraiment incroyable.
Donc Starmania, donc en 78, c'est aussi surtout un grand casting hein, de chanteurs français et québécois, parce qu'on peut donc citer notamment France Gall, Daniel Balavoine, Nanette Workman qui est américaine. On a aussi Eric Estève, Claude Dubois, Diane Dufresne, du beau monde.
Et Fabienne Thibault.
Oui, aussi. Et aussi Michel Berger, qui a un personnage, mais qui est présent que dans la première version.
Que sur l'album. Hein. Ah, ouais, que sur exactement, l'album. Ouais. Sur l'album. Ouais. Il chante la chanson Paranoia.
Oui.
Effectivement. Ouais, ouais.
Donc, il est surtout compositeur. Donc pour,
tout à fait.
Et donc, qu'est-ce que c'est bah, Starmania, parce que c'est ça aussi. C'est une histoire avant tout. Donc, il va falloir qu'on en discute un peu. Si, par exemple, vous deviez résumer. Je sais que c'est assez dur parce que, ben voilà, ouais. Mais comment expliquer l'histoire dans les grandes lignes de Starmania ?
C'est une dystopie, hein, on est dans un futur proche. Le monde occidental n'est plus qu'une seule et même capitale qui s'appelle Monopolis. Mm-hmm. Donc si vous décortiquez un Monopolis, c'est une seule ville, la ville unique, hein, très inspirée de Metropolis, de Frixland, par exemple. Et Monopolis, en fait, est à un moment de bascule parce qu'on va élire le président de l'Occident. Et se présente, en fait, à la candidature 0 janvier, qui est un ancien militaire, qui est devenu businessman, et qui, lui, veut remettre de l'ordre dans la ville. Et il veut promouvoir le monde atomique. Et pourquoi est-ce qu'il veut remettre l'ordre dans la ville ? Parce que la ville est terrorisée par les Étoiles Noires, une bande, en fait, qui a pour chef Johnny Rockford et Sadia, en fait. Qui est un peu le cerveau des Étoiles Noires. Donc ces gens-là, en fait, c'est un groupe contre-culturel qui veut détruire le capitalisme. C'est des anarchistes, hein, globalement. Et donc voilà, le monde est en passe en fait, de basculer entre la force anarchiste ou alors une sorte de tyrannie, de dictature, quoi, très capitaliste et puis visionnaire. Donc ça, c'est le contexte un petit peu politique. À 0 janvier s'oppose aussi le gourou marabout qui lui prône en fait un retour à la nature, à l'écologie, parce qu'on est aussi dans un monde d'éco-anxiété très très fort à cette époque-là. Et puis Monopolis est divisé en deux parties, en quelque sorte. Il y a le monde des nantis, donc des riches, avec la tour dorée de 0 janvier. Voilà.
C'est encore très inspiré à Métropolis en termes de construction de ville, avec les souterrains aussi.
C'est ça, les souterrains, les classes sociales. Oui. Et puis, dans les souterrains, donc dans l'underground, il y a Marie-Jeanne, la serveuse automate, qui vit dans son underground café et qui est amoureuse de Ziggy, un jeune homme en fait qui est disquaire initialement et qui veut devenir une star de la chanson, une star du rock, et qui va pactiser avec le diable quelque part parce que Sadia lui permettra d'accéder en fait au monde de la richesse, voilà. Et en fait dans ce monde là, si vous voulez, Sadia qui veut renverser 0 janvier va en fait dire que il faut comment je pourrais dire ça, promouvoir presque la carrière de Johnny Rockford. Il faut faire connaître Johnny Rockford et ses motivations. Donc elle téléphone à une animatrice de télé qui s'appelle Crystal et qui anime l'émission Starmania, en fait, qui est la grande émission de Télécapital. C'est l'ancêtre de la télé-réalité, presque, de la nouvelle star de toutes ces émissions-là. Et puis, donc, Crystal vient faire une interview clandestine de Johnny Rockford dans l'Underground Café. Et évidemment, il tombe amoureux et il s'enfuit.
Forcément.
Sadia, du coup, crève de jalousie. Elle va les dénoncer à 0 janvier, au moment même où Crystal et Johnny Roquefort, qui se sont ralliés à la même cause, veulent faire exploser la tour dorée. Et en fait, on se rend compte que Sadia est un agent double. C'est en fait le bras droit de Zéro Janvier.
Oh là là.
Voilà, donc c'est une histoire qui est très complexe. Ouais. Une très histoire complexe, à la fois vraiment, d'amour... Oui. Croisé comme ça, avec des trahisons, des espoirs, tout ce qui fait un peu notre nature humaine. Voilà. Une histoire politique, et puis une histoire aussi qui se fonde sur des grands thèmes mythologiques, parce que c'est comment est-ce que je peux faire briller mon étoile. Donc c'est presque le rêve d'Icare, quoi, d'accéder au soleil. Tout le monde rêve de ça, en fait, dans Starmania. C'est la grande tragédie humaine, en fait, qui est développée. Donc c'est aussi pour ça que c'est un spectacle qui est très complexe, parce que ça interroge toutes les arcanes psychologiques et émotionnelles de chacun d'entre nous.
Oui, bien sûr.
Bah pour introduire du coup cette ville et pour écouter la première musique, on va pouvoir écouter Crystal, donc interprétée là par France Gall, qui va pouvoir nous chanter Monopolis.
On rembobine.
De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau. Mirabelle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Dans le dos et une étoile sur la peau.
Monopolis, interprété ici par France Gall, le personnage de Crystal, qui donc, est la présentatrice de l'émission Starmania. On parlait du coup pendant cette petite pause, parce que oui, chers auditeurs, pendant qu'on écoute les musiques, on peut parler, nous. Et du coup, on se disait que, donc surtout avec la phrase « Marcherons-nous main dans la main comme 1980 », en fait, ça parle du coup d'un temps futur qui aujourd'hui est le nôtre, on peut le dire. Est-ce que justement ce rapport avec le contact humain, tout ça, donc est-ce qu'on marche encore main dans la main, justement, c'était la question
oui,
que je posais.
Moi, c'est vraiment une chanson qui m'émeut dans son refrain, parce que moi qui suis né en 1981, en fait, j'ai connu toutes ces périodes où on était sans les réseaux sociaux, avec des relations qui devaient être tangibles, en fait, entre les gens, des relations qui devaient aller au contact obligatoirement. Nous, quand on voulait draguer, en fait, il fallait qu'on fasse vraiment des démarches dans la vraie vie, en fait. il fallait qu'on se bouge, quoi, en oui. fait. J'ai l'impression aujourd'hui, sans avoir un discours de vieux con, hein, c'est pas du tout l'idée, mais j'ai un peu l'impression qu'on ne se rencontre plus. On est aussi dans des rapports très aseptisés, parfois trop politiquement correct, trop individualisé en quelque sorte. Et Monopolis, ça raconte aussi cette nostalgie-là, en fait. La nostalgie de ces années où finalement on était tous, on avait une foi dans notre humanité, en fait, dans ce qu'on était, des gens émotionnels, avec des angoisses, avec des peurs, avec des ambitions, avec des moments de blues. En fait, le problème de cette ville futuriste, Monopolis, c'est une ville qui s'est aseptisée, en fait. Le début de la chanson, elle le dit bien, elle dit « De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. » En fait, on est dans un peuple abruti par la télévision. Dans une ville d'un peuple abruti par la télévision.
Dépersonnalisé,
ouais. Exactement. Et Starmania, ça parle de ce regret-là, de se dire, mais est-ce que on n'a pas perdu notre humanité, en fait, quoi, et comment on fait pour retrouver notre humanité? Et il me semble que Marie-Jeanne, la serveuse automate, c'est celle qui reste la plus humaine. Sa fonction, c'est d'être une serveuse automate. Donc, elle a été robotisée aussi par son métier. Voilà. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain. De temps en temps, je gratte ma guitare et je sers tout le monde dans mon underground café. Mais la fin, en fait, c'est le monde des Stones. C'est le moment où elle s'autorise à crier, en fait, quoi. Et à dire, j'en peux plus, quoi. Venez me tuer, en fait. C'est-à-dire, venez me tuer, ça veut dire... venez reconnaître que je suis quelqu'un de tuable, c'est-à-dire je suis une humaine, en fait. C'est un cri de déchirure humaine, et musicalement, c'est vachement intéressant, parce qu'il y a cette montée d'octave, en fait, à la fin. Fabienne Thibault, elle monte sur deux octaves différentes, comme si, en fait, on avait un besoin d'aller chercher la voix dans ce qu'elle a de plus... De plus fort et de plus humaine, quoi, d'être dans une voie mise en perspective, en quelque sorte. Et ça, c'est la spécificité, en fait, des personnages de Starmania. Ils sont tous à la recherche de la lumière, mais derrière cette recherche de la lumière, il me semble qu'ils recherchent, en fait, ce qu'il y a de plus profondément humain en eux. Quand vous avez Johnny Roquefort qui chante le fameux SOS d'intérieur en détresse, avec cette voix, en fait, qui va chercher les étoiles, là, et qui termine par « Dodo l'enfant d'eau », quoi. Il recherche l'enfant, en fait, en lui, et il recherche à se dépasser vocalement. Il recherche ce qu'il y a de plus humain en lui, quoi. Donc, vraiment, de lutter contre cette société qui dépersonnalise, qui aseptise les gens, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça, cette chanson, pour moi, c'est tout le programme de Starmania. Et, pour la petite anecdote, Starmania devait s'appeler Monopolis, en fait, au départ.
D'accord.
C'est plutôt, du coup, bien qu'on l'ait mis en première.
Exactement.
C'est une bonne introduction.
Ça, j'ai retrouvé ça dans les archives de la SACEM.
D'accord.
C'était l'opéra rock Monopolis, initialement. Okay. Ouais, voilà.
C'est plutôt... c'est hyper intéressant. Et ça nous permet de rebondir, du coup, sur un thème qu'on voulait parler, qui est très présent dans Starmania, qui est le rêve, parce que, mine de rien, que ça soit, du coup, la serveuse qui rêve de ne plus vraiment être automate ou une serveuse, que ça soit Ziggy qui rêve d'être danseur de rock, puis par la suite, dans d'autres versions, chanteur, batteur, qui rêve d'être quelqu'un d'autre. On a aussi, du coup, un personnage qui, durant une chanson qui s'appelle Le Blues du Businessman, donc c'est 0 janvier, va dire qu'il aurait aimé être un artiste, enfin, pas le politicien et le businessman qu'il est. Mais justement, est-ce que, on en parlait, est-ce que ça serait pas justement un mensonge de politicien pour usurper le rêve.
Voilà, donc si on replace dans l'histoire de Starmania, 0 janvier, qui mène sa campagne électorale pour devenir président de l'Occident, va passer aussi à la télé, donc dans l'émission Starmania. Et Crystal lui demande, si vous n'étiez pas qui vous êtes, dites-moi qui est-ce que vous auriez voulu être. Et lui dit, j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, etc. Et il lance ce fameux refrain, j'aurais voulu être un artiste comme un cri du cœur, comme si en fait il était passé à côté de sa vie. J'aurais voulu être un artiste, j'aurais voulu être un chanteur. Mais la difficulté en fait, hein, toujours replacer la chanson en fait dans son contexte parce que ça lui donne une perspective nouvelle. On est dans une émission de télévision. Mmh. Il est candidat à la présidence de l'Occident. Est-ce que ce serait pas une rhétorique politique que de se montrer un petit peu? C'est comme Macron qui dit à un moment donné, au début de son mandat, il dit, vous savez, moi j'ai pas d'amis.
Oui.
Voilà. Ouais. Bon, on sait que tout ça, en fait, ce sont des ressources politiques, c'est des ressources de discours en quelque sorte. Surtout que le blues du businessman, bah, c'est pas un blues. En fait, c'est une chanson vraiment à la Broadway, quoi. C'est vraiment une chanson à la comédie musicale de Broadway. C'est une grande scène. D'ailleurs, c'est la chanson la plus chantée des karaokés, paraît-il.
Ah oui.
Donc, c'est une chanson hyper variété, quoi. Hyper populaire. Est-ce qu'il n'est pas là en train de nous séduire plutôt avec un beau discours d'un bon chanteur de comédie musicale? Moi, voilà, j'ai des doutes.
Ben, on va pouvoir écouter cette chanson pour illustrer les propos.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi et toi,
je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour, j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret, je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste, faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. Pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste,
être un artiste. Fallait pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
Avec Joris, on rembobine sur RCN.
Le blues du Bee Desmond, du personnage 0 janvier, ici interprété par la version de Claude Dubois. On discutait justement aussi que c'est un politicien, il peut souvent mentir. Et donc les paroles font un peu sens avec « il veut être millionnaire, j'aurais voulu être un chanteur ».
Anarchiste.
Être un anarchiste.
Exactement, quand il dit « j'aurais voulu être un chanteur » et qu'il est en train de chanter... en fait, il réalise ce qu'il voudrait être. Donc, tout ça n'est... aux origines des études de la chanson, en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane Hirschi qui a inventé la cantologie. Et Stéphane Hirschi, il dirait que c'est une posture de l'imposture.
D'accord.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est une théâtralisation. Les paroles sont complètement théâtralisées. Et il faut faire très attention, en fait, du contexte dans lequel... au sens qu'on leur donne, quoi.
Mais donc, il dit aussi à la fin « dire pourquoi j'existe ».
Voilà.
Et ça montre aussi la question de l'identité, donc qui il est, lui, ou qui n'est pas justement à ce qu'il essaye de montrer.
Exactement.
Et il y a plein de personnages qui ont cette question d'identité, justement. Et ça nous permet de passer au personnage de Ziggy, donc, qui est de base un peu un fils à maman. Enfin, il a fait de la danse de ballet, mais finalement, le jour de son anniversaire... une fois qu'on lui a offert un coffret de Tchaïkovski, il va l'échanger contre un de David Bowie, et c'est là qu'il se rend compte peut-être de qui il est vraiment.
C'est ça. En fait, il se rend compte aussi que, d'abord, il se rend compte ce que peuvent être des masculinités fluides, déjà, avec Bowie qui invente le personnage de Ziggy Stardust. C'est pour ça qu'il prendra le pseudo de Ziggy dans Starmania, donc très influencé. Ça me permet aussi de dire, je fais un tout petit...
Bien sûr.
Une petite parenthèse, que Starmania aussi, c'est l'histoire de la concurrence entre le rock et le disco.
D'accord.
Parce que Johnny Roquefort, en fait, littéralement, c'est Johnny Hard Rock.
Oui.
Ouais.
Et c'est, Ziggy, c'est... Il faut préciser que c'est pas comme le fromage, c'est vraiment le rock.
Exactement.
C'est rock.
C'est ça.
Fort.
Et Ziggy, donc, c'est aussi toute la culture un peu disco à la Bowie. Voilà. Donc, c'est aussi une œuvre métamusicale
entre
deux cultures musicales qui se résout dans la pop. Voilà, en fait,
c'est ça marrant. Qui est...
Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais en fait, voilà, Ziggy, c'est celui qui découvre, en fait, à travers le personnage de Ziggy Stardust et de David Bowie, qu'il peut, d'abord, qu'il voudrait devenir un rocker et une star. Et en plus, qu'il pourrait vraisemblablement aimer les garçons.
Oui.
Également.
Parce que du coup, Ziggy est homosexuel.
Est homosexuel. Il révèle cette homosexualité, en fait, à travers le personnage un peu hyper fictif de Ziggy Stardust.
Et question de l'homosexualité, qui en France en 79 n'est pas forcément, même pas du tout mis en avant, mais qui, grâce à Luc Plamondon.
Alors. Voilà, on va traiter dans l'opéra rock Starmania cette question de l'homosexualité et du travestissement aussi, puisque Sadia est un étudiant travesti. Alors, l'homosexualité, elle est dépénalisée à partir de l'élection de Mitterrand en 1981. Donc, quand sort l'album de Starmania, quand on a Marie-Jeanne qui dit « Oui, je sais, il aime les garçons ». Oups.
Ouais.
pour la France, c'est compliqué. Ou quand on a Sadia qui, dans Travesti, dit « je ne suis pas une femme, je suis un travesti », elle ne dit pas « je suis un homme », elle dit « je suis un travesti », ce qui est peut-être encore plus douteux, en fait, et parfois scabreux. Voilà, donc ça choque un peu les oreilles des Français. Alors, en revanche, et c'est là où mon point de vue diverge avec Thomas Joly, qui dit que Starmania était une œuvre complètement visionnaire parce qu'en 78-79, on parlait... de la question du genre. Bon, faut pas oublier que Luc Plamondon, c'est un Nord-Américain et que les études de genre, en fait, elles sont déjà très très fortes aux États-Unis et au Canada dans les années 70, puisque elles démarrent dans les années 1950. Donc Luc Plamondon est lui-même homosexuel, en fait, Est parfaitement à l'aise, en fait, avec cette question de l'homosexualité, des identités fluides, des masculinités vulnérables et déconstruites. C'est pas du tout un problème pour lui. Ça l'est pour les Français quand ils entendent ça en 78, quoi, 79. Mais c'est aussi pour ça que Michel Berger est venu le chercher, en fait. Parce que Michel Berger disait que Luc Plamondon avait une manière de faire sonner le français très particulière, et puis que les thématiques qui lui étaient chères étaient des thématiques de violence, des thématiques très urbaines, et que Berger avait envie d'amener ça, en fait, dans cette période politique qui était un peu bizarre, parce qu'on était sous Giscard, ouais, qui était à la fois très progressiste, mais en même temps hyper conservateur. Donc on sent qu'on monte vers la gauche, hein, très très progressivement en 78-79, et on a envie de dépoussiérer un petit peu la jeunesse. C'est comme si, en fait, mai 68 n'avait pas fait assez de bruit, et en 78-79, on dit « non, mais on a envie de se faire réentendre, en quelque sorte ». Donc, ces thématiques-là, eh bien, elles sont amenées en France, et Berger les assume.
Bah, quoi de mieux pour illustrer le personnage de Ziggy que d'écouter la chanson de Ziggy, interprétée par Eric Estève.
Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant, elle me disait: quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Tous les samedis, j'avais pas d'amis. À 15 ans, ma mère m'a donné en cadeau d'anniversaire tout Tchaïkovski dans un coffret. Moi, j'ai couru chez le premier amour de ma vie s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ma vie. Moi, j'ai changé mon nom pour lui. J'ai changé mon nom pour lui.
Ziggy, Ziggy.
Je suis parti de chez ma mère. Je veux être un danseur. Je veux être un danseur. Je veux être un danseur de rock. Je veux être un danseur de rock. Premier danseur rock au monde. We'll be right back.
la chanson de Ziggy, interprétée par le personnage tout simplement de Ziggy. Tu voulais poser une question, Pablo.
Oui, vous parliez tout à l'heure d'un basculement, entre guillemets, apporté par... Enfin, pas forcément apporté par ça, par cette comédie musicale, mais... qui était dans l'air du temps, disons, à cette époque-là, dans les idéologies politiques. Et vous disiez que c'était une chanson qui était dans votre jeunesse, qui vous avait un peu touché aussi. Est-ce que vous pensez qu'elle a impacté et qu'elle a pu porter des questions et des
valeurs.
Ouais, des valeurs que des jeunes pouvaient se questionner à l'époque et qui les ont confortés dans leur idée de les défendre et d'aller vers quelque chose d'autre.
Complètement. En fait, bon, Starmania n'a pas été pensée comme une œuvre militante.
Bien
sur
sûr.
N'importe quel sujet, que ce
d'accord.
soit politique, parce qu'en plus, ben, c'est quand même 0 janvier qui gagne hein, à la fin,
oui.
donc désolé spoiler.
De spoiler,
mais
ça voilà. termine en tragédie, finalement.
Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais, le monde est désespéré hein, politiquement, mais... Et puis, bon, Berger voulait pas faire un spectacle militant sur le genre non plus, c'était pas du tout son objectif. En revanche, Michel Berger et Plamondon étaient très très clairs sur une chose, c'est que pour eux, l'opéra rock Starmania, c'était une œuvre de jeunes pour les jeunes, faite par des jeunes.
Ouais, c'est ça.
Et que c'était de la musique jeune, et c'était des préoccupations de jeunes, et que ça devait être au miroir de la jeunesse, et il fallait qu'on entende la voix de la jeunesse, et qu'eux avaient une trentaine d'années, et je crois que c'était Diane Dufresne la plus âgée en fait. Non, c'est Luc Plamondon qui était le plus âgé, il avait presque 40 ans je crois quand il a écrit Starmania, il me semble, où il devait juste avoir dépassé les 40 ans, mais c'était que des jeunes, en fait. Donc, l'œuvre a été vue, en fait, plutôt au miroir de la jeunesse. Et de génération en génération, et on le voit encore avec la manière dont Thomas Joly a retraité la mise en scène et comment est-ce ils ont reproduit le spectacle, on voit que, de toute façon, ça porte toutes les préoccupations de la jeunesse. L'éco-anxiété, qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi notre futur?
Questions, des thèmes qu'on se pose dans
voilà. maintenant.
Et la question du genre, qui est une question qui est... Ben, on ne peut plus débattue aujourd'hui.
Actuelle, ouais,
voilà. Ben, moi, ce que je disais, c'est que c'est cette chanson-là, la chanson de Ziggy particulièrement, c'est une chanson qui, à un moment donné... est une sorte de modèle ou de réconfort, je pense, pour des jeunes dans les années 80 qui ne savent pas trop qui ils sont.
Qui se questionnent.
Vous vous rendez compte quand même que la question de l'homosexualité, donc elle est dépénalisée en 81. Il y a toute la vague sida qui arrive et on parle de cancer des homosexuels à partir de la fin des années 80, etc. À un moment donné, il est pas bon de le dire, quoi. On fait pas forcément, on choisit pas forcément sa vie, en fait, quand on est gay à la fin des années 80. C'est pas si assumé qu'aujourd'hui.
Bien sûr.
Qu'une œuvre, en fait, puisse porter ce genre de message-là, en fait, je pense que ça a apaisé certaines générations. Ça n'a pas cautérisé, mais ça a vraiment apaisé. Ça a permis pour des générations de gens comme moi, en fait, d'avoir des modèles spectaculaires auxquels se référer à un moment donné, auxquels se référer, quoi.
Peut-être une des raisons du succès aussi de l'opéra rock au fur et à mesure du temps, parce que du fait que les gens s'identifiaient à ça et qu'au final, les thèmes étaient importants à traiter.
Complètement.
Et à mettre sur le tas, quoi, à ce moment-là.
Complètement. Quand on chante dans la petite musique terrienne, il n'y a plus d'avenir sur la Terre... quand tu l'entends dans les années 80, tu te dis, bah, en fait, c'est la traduction de l'esthétique punk, hein, c'est No Future, en fait. Hein, voilà. Mais en fait, tu peux très bien l'entendre aujourd'hui, en 2024, il n'y a plus d'avenir sur la Terre. Réchauffement climatique, on va où? Il n'y a plus d'avenir sur la Terre, quoi. Et on est à dépasser l'esthétique punk. Hein, mais donc, en fait, tu vois, chaque époque te permet de te donner une coloration, en fait, à la chanson. Et les titres sont devenus de tels tubes que, justement, ils sont adaptables à toutes les époques. C'est le principe du tube.
C'est ça qui est fou, c'est que même aujourd'hui, n'importe quelle chanson, enfin pour moi qui, du coup, aurait rebooté l'album en préparant l'émission, c'est fou comme tous les sons, tous les thèmes, ils sont actuels, quoi. On peut s'identifier, n'importe quel jeune ou même personne plus âgée, hein, mais n'importe qui peut s'identifier encore à ça, alors que ça fait 50 ans, enfin 40 ans qu'elle a été, a été créée. Quoi.
Et tu vois, les animateurs de radio comme vous, à la fin des années 80, disaient à Michel Berger et Plamondon, quand ils étaient invités sur les plateaux de radio, ils disaient c'est fou comme c'est actuel. Comme, en fait, c'est actuel tout le temps.
Oui, voilà. Et, intemporel. Voilà.
Intemporel tout simplement. C'est-à-dire que Berger et Plamondon ont très très bien compris le présent de la fin des années 70 et ils ont poussé les vannes à fond pour en faire quelque chose de complètement intemporel, quoi. Donc c'est ce qui nous parle encore aujourd'hui.
Ouais.
Justement, on parlait de la petite musique terrienne.
La petite musique terrienne.
Je propose qu'avant qu'on en discute, on l'écoute.
Ouais,
tout simplement.
Tout à fait.
Il n'y a plus d'avenir sur la terre. Il y a quelque chose qui tourne. Dans le système solaire, y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions, à nos
On rembobine avec Joris jusqu'à 22h sur RCN.
Je suis presque gêné tellement que c'est beau de couper avec un jingle cette musique.
Ouais, c'est magnifique. Ouais, et j'ai vraiment une pensée pour Fabienne Thibault qu'on vient d'entendre et qui nous écoute en plus. J'en suis
très honoré.
Sûr. Et j'ai une pensée en fait très émue pour elle parce que c'est la voix de Starmania. Et il y a quand même une... Il y a une émotion dans cette voix en fait qui chante cette absence de futur là qui est quand même très très forte. Fabienne était vraiment l'image d'une jeunesse qui cherchait en fait un autre mode de vie à cette époque là. Enfin voilà, je l'embrasse parce que c'est une amie en plus et puis
on la salue. Et oui, moi je sais que personnellement ma musique préférée c'est La Complainte de la Serveuse Automate.
Bon, elle sera donc, très contente.
Mais oui, la voix, on peut le dire. Avant de parler, pas rapidement, mais il ne reste malheureusement plus beaucoup de temps, alors qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais la question de l'écologie, mais aussi un peu de la musique terrienne, enfin, SOS d'intérieur en détresse, ce lien un peu aussi avec l'espace, parce que Starmania, en dehors de Star, qui veut dire célébrité, ça veut aussi dire les étoiles, il y a aussi les étonnards. Il y a un lien un peu avec sous cet univers-là.
Effectivement, il y avait un personnage en 78 qui avait été imaginé, c'est un personnage d'extraterrestre.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est une œuvre qui a une esthétique futuriste, parce qu'on imagine partir pour les étoiles. Zéro Janvier, dans son discours électoral, dit qu'il veut conquérir Mars en fait,
la station spatiale,
vivre dans une station spatiale. Et, exactement, il y a le final au Palais des Congrès en 1979, c'était Pluton, Saturne et Jupiter, entendez-vous monter vers vous le chant de la Terre. Donc voilà, la prière aux étoiles. Oui en fait c'est vraiment une esthétique de science-fiction qu'on va avoir. Et puis de se dire, parce qu'on cherche en fait qui peut nous répondre à nos questions. Alors le problème c'est où est Dieu là-dedans? Où sont les dieux? Alors, les dieux sont perdus, en fait, dans le trou noir de l'univers. En fait, je pense que c'est ça. Et qu'aujourd'hui, notre grande tragédie, c'est de se débrouiller entre nous, pauvres petits humains. Il n'y a plus personne, en fait, qui peut nous sauver autour de nous. Donc, voilà. Et on a cette figure de l'extraterrestre sur l'album de 1978. Moi, je pense que, initialement, une des idées de Plamondon, mais je n'ai pas eu la confirmation. Luc ne m'a pas confirmé ça particulièrement. Mais moi, je pense en fait que c'est tout Starmania, c'est l'histoire en fait d'un extraterrestre qui est sur la Terre. D'accord. Et qui regarde les humains.
Qui
constate, mais ce bordel quoi, en fait dans la société humaine et qui repart. La dernière chanson au Palais des Congrès, c'est « Maintenant, pour moi, tout s'éclaire. Je n'ai fait que passer sur terre le temps d'une vie, mais le temps est infini. Je continue ma trajectoire, je vous salue et je repars vers d'autres lumières, vers d'autres galaxies. »
C'est plutôt clair.
C'est assez clair pour moi. Ouais. C'est un extraterrestre qui est sur scène et qui regarde en fait ce monde. Et dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est que cette Starmania ?»
en fait.
Et qui dit et qu'est-ce que c'est que cette Starmania, vous vous prenez pour qui, pourquoi, vous pauvres petits humains, vous pouvez arrêter vos montres, voilà. Donc je pense en fait que voilà, on est dans une sorte de théâtralité humaine, et qu'il y a désormais il y a des gens ailleurs qui nous regardent amuser avec notre pauvre condition, quoi.
C'est un super constat, ça. Non, mais...
c'est un peu désespéré comme constat.
Oui, ouais, c'est plutôt... Ouais.
Mais ouais, voilà.
Il nous reste quand même encore un peu de temps et je pense qu'on va pouvoir aborder un thème plutôt intéressant qui est en fait le personnage de Stella Spotlight, qui est une actrice de cinéma.
Ouais. En noir et blanc.
Oui, mais
et muet.
Et qui, en fait, est hyper sexualisée, on peut le dire.
Ouais. Baby Doll.
C'est ça, c'est son surnom, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et je pense qu'on va pouvoir écouter la musique. Juste une petite précision, je le dis comme ça, mais il y a des mots ou des choses comme ça qui peuvent, entre guillemets, choquer.
Qui sont très crus, quoi.
Alors qu'en fait, c'est hyper important parce que ça dénonce justement cette sexualisation-là.
Ouais, c'est du male gaze avant l'heure, en quelque sorte.
Bah, on va pouvoir écouter.
Mais je n'ai plus l'âge de mon image. Il faudrait que je convole avec un prince du pétrole. J'ai déjà l'âge de tourner la page. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business, à tout ce stress, tout ce stress. Bye bye ma jeunesse, venez voir mourir le dernier sex symbole. Venez tous applaudir à la fin d'une idole. J'ai passé ma vie à ne rien faire que ce qu'on m'a dit. J'ai passé ma vie à étouffer mes rêves, mes envies. Ah oui. Quand je sors dans la rue sans maquillage, personne ne s'arrête sur mon passage. Même ceux qui rêvent de moi la nuit dans leur lit. La vieille école. Quand je fume du hash, ça me donne pas de flash. J'ai peur de devenir folle. Toute la nuit, je rêve comme viole. Moi qui suis sage comme une image, comme une image divine qu'on adore et qu'on adore. Je sens que je dégringole. Ça n'était qu'un
devoir ouïr d'un demi-sexe symbole. Venez voir, venez rire à la fin d'une idole. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma sortie. J'ai raté ma vie, je ne veux pas rater ma goodbye party. Goodbye, goodbye, party. Devant les caméras du monde entier, je descendrai le grand escalier qui mène au fond de ma piscine dorée. Laissez-moi, laissez-moi. Technicolor.
Sur une note finale magnifique, hein, bien sûr, de Diane Dufresne, je ne me trompe pas.
Diane Dufresne, oui.
Bah, qui, du coup, l'a interprété le personnage de Stella Spotlight, qui est super intéressant, en fait.
Hyper intéressant, Stella Spotlight, parce que c'est une actrice qui fait ses adieux au cinéma muet et au cinéma en noir et blanc, parce que le monde du cinéma arrive en technicolor, mm-hmm. en fait, et avec le parlant, et donc elle a plus sa place. Et cette chanson, qui est la plus longue de oui. Starmania et qui travaille sur des musicalités complètement différentes, c'est une chanson très rhapsodique en quelque sorte, mm-hmm. montre à quel point ce personnage-là, bah, si elle n'a plus sa place dans le cinéma, eh bien, la seule manière pour elle d'exister, c'est de chanter, coûte que coûte. Voilà.
C'est incroyable et malheureusement, enfin, on est à la fin, mais moi je pourrais en parler pendant des dizaines et des dizaines d'heures.
Ben
je
moi pense aussi.
Que vous aussi. je propose qu'on refasse un jour. Une deuxième partie, si ça vous dit.
Avec grand plaisir, grand plaisir.
Partagé. Mon Pablo, merci d'avoir été là.
Ben, c'était.
j'ai pas les mots.
J'ai pas beaucoup parlé, bah, parce que juste c'est super intéressant oui. et puis c'est très enrichissant d'entendre tout ce que vous avez pu trouver, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez recherché sur ça.
C'est un plaisir de le partager surtout parce qu'un chercheur, il doit pas travailler seul dans son coin. Son objectif, c'est de partager avec tout le monde et de vulgariser cette recherche.
Vous l'avez fait à merveille.
Ouais. Merci d'avoir partagé ça avec
nous. Merci à vous.
Pablo, on se dit à la semaine prochaine dans une autre émission de Robin sur. Pink Floyd.
Sur
très intéressant.
Il l'a dit.
On le dit. Et donc, à la semaine prochaine. Merci encore.
C'était avec super. Plaisir. À bientôt.
Au revoir.